Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec Claude Verret. Bonjour.
Bonjour la radio, bonjour auditrice et auditeur.
Et Baptiste Rela au téléphone. Bonjour. Vous êtes tous les deux ici pour nous parler donc de cette ouverture des 24e rencontres d'EDI qui aura lieu donc ce mardi 27 janvier à partir de 17h. Avec un film débat, le soulèvement de Thomas Lacoste à 20h. Et à 20h30, donc un spectacle Prélude de Pan de Jean Giono. Ça sera à la salle polyvalente avec un tarif éco-carte. Ça, on précisera à la fin de l'émission. Alors, pour vous, d'abord, Baptiste Rela, vous êtes fondateur de Scène Nationale 7. Et vous êtes à la comédie, et vous êtes comédien aussi à la Comédie de Saint-Étienne. Et donc, vous proposez pour cette ouverture de festival cette lecture de Prélude de Pan. Alors, pour vous, cette compagnie Scène Nationale 7, avant tout, quel est le désir de partager avec un public ?
Le désir de partager avec un public ?
Oui.
Oui, il est fort, évidemment. Nous, on s'est installé en milieu rural, hein, puisque la Drôme est un territoire assez campagnard quand même. L'association, elle est basée à Kliouskla. Et notre envie, c'était de faire du théâtre, un théâtre de texte, en pleine campagne, pour toucher des publics qui parfois n'ont pas accès au théâtre ou à des textes un peu plus engagés ou poétiques. Et en bout de course, c'est venu voilà, ce dernier spectacle, cette envie de monter Prélude de Pan et depuis longtemps un amour pour l'écriture de Jean Giono qui a fait aboutir ce spectacle.
Ce spectacle sera accompagné de Samy Descosters, je crois.
C'est ça, il dit Samy Descosters, il me reprend suffisamment donc je reprends aussi. J'ai tendance à dire Descosters, mais oui, Samy qui est musicien. Chanteur, voilà, qui a composé la musique et les chansons pour ce spectacle.
Prélude de Pan fait partie d'une trilogie, si je comprends bien, enfin, s'il me semble avoir lu.
Pas tout à fait. Hein. Non. Prélude de Pan, c'est vraiment une nouvelle.
Oui.
Il ne faut pas confondre avec ce qu'il appelait la trilogie de Pan, qui sont d'autres œuvres. Mais parce qu'il tourne autour de cette figure de Pan. Mais Prélude de Pan est vraiment une œuvre, enfin une nouvelle écrite à part dans les années 1930, voilà. Pendant qu'il écrivait tout un recueil de nouvelles, dont le recueil s'appelle Solitude de la pitié.
Voilà,
donc, c'est un texte qui va avoir bientôt un siècle.
Voilà, je cherchais désespérément une trace de ce Prélude de Pan sur Internet. Et effectivement, vous m'avez donné la direction à trouver. Peut-on raconter rapidement de quoi parle Prélude de Pan ?
Ah oui, avec plaisir. Alors, Prélude de Pan, ça se passe dans une fête de village, une fête votive. Tous les personnages de cette campagne se retrouvent pour faire la fête. Donc, il y a des bûcherons, des bergers, des villageois. Et il y a notamment un bûcheron, enfin une équipe de bûcherons qui descend dans un café. Le café du centre, et il y a une drôle de météo, c'est-à-dire que le temps tourne à l'orage, mais il y a quelque chose de très lourd, mais la météo n'éclate pas encore. Et il y a un espèce de pressentiment qu'il y a quelque chose qui va mal se passer. Et effectivement, dans le bar, alors après je ne vais pas raconter tout le spectacle, mais dans le bar, le bûcheron, pour s'amuser, et puis parce qu'ils sont ivres, un geste de violence envers une tourterelle, il lui casse une aile. Et un peu plus tôt, il y avait un autre personnage qui était descendu de la forêt, un personnage un peu énigmatique, qui n'avait pas vraiment envie qu'on le voie, qui longeait les ombres des maisons, et qui se retrouve au fond du bar et qui demande à ce qu'on arrête cette violence. Et comme il n'est pas écouté, il va lancer une malédiction par sa bouche, voilà, et aussi par le biais d'un accordéoniste, un villageois qui joue de l'accordéon. Et tous les villageois vont se mettre à danser, une espèce de danse un peu folle, un peu transe, et vont sortir dehors et toute la nature environnante va les rejoindre. Voilà, tout le peuple des vivants, des bois, des airs, et tout ça va se mêler et créer une espèce d'orgie finale un peu fantastique et délirante.
Pour ce spectacle, ça sera procédé par une lecture, donc, avec l'accompagnement à guitare et au chant de Samy Descoster.
Samy fait partie de ce spectacle. Il n'y a pas de lecture avant le spectacle. Lui, il fait partie intégrante de ce spectacle. Il incarne même un des deux personnages, parce qu'on a décidé que c'est une espèce de double narration. Moi, j'avais l'emoji Ono, je joue le narrateur. Et Samy, lui, avait sa musique pour raconter, planter des paysages sonores, de la poésie. Et puis, voilà, on s'est imaginé que c'était un des personnages qui avait traversé cette histoire que tout le village connaît et ressasse depuis quelques années, même si on n'arrive pas à savoir quand est-ce que ça s'est passé exactement.
Claude Verret, vous-même, donc, en tant que responsable de ces rencontres de l'écologie, pourquoi ce choix de proposer Prélude de Pan de Jean Giono ?
Alors, déjà, j'ai écouté Baptiste à Abitaire il y a quelques mois, et ça m'a remémoré, ça m'a fait remonter plein de livres, plein de textes de Jean Giono, dont je suis un grand lecteur, et j'ai dû lire tous les bouquins de Giono dans les années 1970. Et du coup, j'ai pensé pour deux raisons. La première, c'était cette relation à la nature puissante. Et aujourd'hui, dans les rencontres de Die, on essaye de mettre en valeur la rivière, la forêt et tous les non-humains. Je me suis dit que Giono avait eu ce sentiment, voire ce pressentiment, que les non-humains étaient partie prenante du territoire, partie prenante de cette vie, et même la mémoire éternelle de ce territoire. Donc ça fait partie donc du sens de la vision des rencontres 2026 de l'écologie. Et puis il y a un autre passage, puisqu'on en parlera sûrement, c'est que Jean Giono était un pacifiste invétéré, un pacifiste profond, hein, qui avait été marqué par la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on aura plusieurs temps sur la guerre, avec un film sur la Somalie, mais on parlera de l'Ukraine et de Gaza. Et donc le sujet du pacifisme intégral et comment nous nous comporterions, nous, en cas de guerre, est un sujet fondamental qu'il est très important de discuter à l'avance et où les certitudes ne sont pas si évidentes que ça. Donc c'est un vrai sujet.
Et justement, cet ouvrage du Prélude de Pan, cette nouvelle a été écrite dans les années 30, comme vous le disiez, Baptiste.
Oui,
est-ce que c'est quelque part aussi une métaphore de l'Europe qui s'annonçait dans les années qui allaient arriver ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit... s'il y a une métaphore, c'est vraiment plus la réconciliation du vivant non humain et du reste du vivant. C'est plutôt cette parabole-là qu'il aborde. Après, il y a vraiment... oui, cette histoire de... Là, sous l'angle de Giono, ça se passe, c'est une forme de guerre, en fait. C'est une forme de vengeance de la nature contre les hommes. Donc, s'il y a une métaphore, c'est plutôt celle du dérèglement climatique actuel et le fait qu'à un moment, voilà, ça va craquer, quoi. Et là, ça craque en une nuit via un personnage qui, effectivement, est une sorte de chaman, puisqu'il fait un peu le lien entre... voilà, entre un monde un peu, enfin entre voilà la nature entre les hommes, entre aussi le monde un peu des esprits et puis le monde concret. Et cette jonction de ces deux mondes-là opère à ce moment-là sous une forme assez violente finalement parce que c'est la guerre. Finalement, comme ces êtres vivants ne s'aiment pas, on va forcer la réconciliation. En tout cas, c'est ce que Giono propose. Mais évidemment, on pourrait envisager un acte d'harmonie, enfin de paix, différemment. Et moi, c'est la question je trouve que c'est la question qui reste en suspens à la fin du spectacle. Et c'est pour ça que c'est très agréable, en général, de discuter avec les gens, parce que ça raconte quelque chose d'aujourd'hui, d'assez concret, d'assez présent dans notre histoire. Enfin, voilà, on sent bien qu'à un moment, ça va craquer. Et se pose la question de savoir ce qu'on peut faire sur nos territoires pour opérer cette réconciliation entre les vivants.
Il y a cette écriture de la sensation, comme vous le notifiez sur votre dossier.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut signifier par cette écriture de la sensation et comment l'appliquer face à un public?
Alors, c'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Alors évidemment, ça passe par les mots. Nous, on avait envie, même dans un spectacle d'une forme plus grande, enfin au niveau théâtral, plus spectaculaire, on va dire, de faire en sorte que les sensations arrivent aussi par le son, par les ondes, par la lumière. Voilà. Après, quand on est spectateur de théâtre, on n'a pas accès à tous les sens. On n'a pas accès à l'odorat. Ça reste quand même le plaisir des oreilles. Et le plaisir des yeux. Mais chez Giono, c'est vrai qu'il y a tout un vocabulaire autour du sensitif, ce qui rapproche un peu de l'animal, de la façon de vivre des animaux. Il y a beaucoup de choses autour des sensations du poil, du toucher, des odeurs. Il y a un énorme travail sur l'importance de la lumière, des variations de la lumière, pendant toute cette nouvelle, qui est très très belle, avec l'orage et les nuages qui passent. Et c'est quelque chose de très subtil et de très original, je trouve, par rapport à beaucoup d'écritures. Parce que Giono écrit vraiment là-dessus. Sa poésie, c'est vraiment une poésie, un peu organique. Il y a vraiment quelque chose de même de cosmique.
Ce texte est lu dans son intégralité?
Oui, alors il n'est pas lu, il est donc vraiment joué. Il est joué et même dansé, puisque avec Samy, vu qu'on profite de sa guitare et de ses chansons pour partir dans une vraie transe. Donc il est joué et dansé, pas lu. Et pardon, j'ai perdu la première question, c'était quoi?
C'était l'intégralité du texte.
Tous les mots y sont. On n'a pas enlevé un mot. Et on n'en a pas rajouté non plus. On a juste rajouté des bruits ou des onomatopées, mais dans l'ensemble, c'est exactement les mots de Giono.
Je me tourne vers Claude. Vous-même avez une grande connaissance de cet auteur, Jean Giono.
Oui, je disais précédemment, là, je pense que j'ai lu à peu près tous les livres de Jean Giono, que ce soit ses essais sur la guerre, ses essais politiques ou ses romans. De la première partie d'avant la guerre de 1939-45 et ceux d'après, parce qu'il y a une évolution notable. Tout ce qui a été écrit autour des années 30, et Bomugne, Regain, Colline sont immensément imprégnés de cette nature, de cette force de la nature. Et souvent, ces récits se passent dans les Alpes, autour de Manosque, mais dans la vallée de la Clarée, autour de Briançon, dans le Trièves, dans le Vercors aussi, dans le Divois un tout petit peu pour le dernier ouvrage qu'on vient de découvrir. Et donc, il nous fait baigner dans cette eau des montagnes, entre les rochers. Quand on lit le dernier livre qu'il vient de faire là, sur Voyage à pied dans la Haute-Drôme, quand on voit qu'il monte sur Arnaillon, on le voit passer entre les rochers et les falaises. On sent presque la pression de la montagne sur les hommes. Et donc, il donne à la nature cette force qui régente les hommes, qui les oppresse en même temps, et avec qui, à un moment, il devrait composer. Et cette composition met les hommes, les humains, en tout cas, presque sur un pied d'égalité avec la nature. C'est-à-dire qu'elle était là bien avant, les arbres étaient là bien avant, les rochers aussi, la rivière aussi. Ils seront là sûrement bien après. Et donc, il nous met dans une certaine humilité, une certaine... Et ça, je trouve que c'est puissant de nous ramener à cette humilité. Après, on en parlera peut-être plus, mais la deuxième partie, un hussard sur le toit, Iris de Suse, tous les voyages en Italie et tout, sont plus fantasmés, sont plus féeriques. La nature est toujours présente, hein, y a pas de souci, mais il y a un ajout psychologique et puissant de Giono, qui lui donne une dimension qui le sort du régionalisme. Si la première partie a pu être imaginée à un moment comme l'écrivain de la Provence, la deuxième partie lui donne toute la puissance internationale d'un grand auteur.
Baptiste, pour jouer ce spectacle, est-ce que vous vous êtes peut-être déplacé aussi sur les territoires qui ont inspiré ce texte de Jean Giono pour justement situer un peu cet homme dans la nature?
Oui, beaucoup. À tel point qu'à un moment, j'avais vraiment envie. Enfin, j'ai appelé une randonnée théâtrale, Rando Giono, parce que je suis parti un peu sur ses traces, même s'il en a arpenté beaucoup. Mais je suis parti du Trièves et j'ai rejoint Manosque. J'ai fait 300 km dans des régions qu'il a lui-même parcourues à pied ou sur lesquelles il a écrit. Et c'est vrai que ça m'a vraiment rapproché de l'imaginaire de l'auteur. Ça m'a aidé à développer aussi mon amour, à comprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ces terres-là, des fois, qui est, comment dire, qui est intemporel. Il y a quelque chose qui n'a pas changé malgré les années. Ce qui fait que, du coup, on peut projeter beaucoup de choses sur ces, comme disait Claude justement, sur ces montagnes, sur ces fleuves, sur ces forêts. Il y a la présence très forte de la nature qui peut être effectivement des fois très oppressante, notamment dans le sud aussi. C'est un sud un peu far west chez Giono, c'est un sud qui est très sec, très aride. Et donc ça lui donne le prétexte de créer des personnages qui effectivement vont être en lutte avec la nature et qui aussi leur donne une dimension de géant, puisqu'il faut être très grand pour lutter avec les éléments. Et donc ça leur confère un décor incroyable. Et effectivement, depuis le début, Giono, mais c'est pour ça que je reviens à cette figure du chaman, on pense que Giono était en quelque sorte un chaman lui-même, arrive vraiment à faire le pont via ces personnages entre la nature et l'homme, quoi. Il y a quelque chose dans cette écriture sensitive qui existe. Effectivement, donc après je suis aussi allé dans la Drôme avec Samy, on a fait une deuxième randonnée, on est reparti de Manosque et cette fois-ci on a rejoint le village où est installée l'association et où j'habite, Kliouskla. Et là on a refait 300 km en jouant tous les soirs dans les villages, pareil, ce spectacle, voilà, sur 15 étapes. Et Giono, on va partir dans le Vercors, je ne voudrais pas m'arrêter là sans faire un petit coup de pub. À partir de mi-mai jusqu'à début juin, pareil, une quinzaine de jours. On va repartir de Kliouskla, longer la Drôme, attaquer le versant du Vercors vers Vassieux, et puis on va longer tout le Vercors du sud au nord, jusque là où habite Samy, lui, parce qu'il habite à côté de Voiron.
Vous procédez ça à pied ?
Voilà, on fait ça que à pied. Le but, c'est d'avoir vraiment zéro taxe carbone. Enfin, c'est pas ça le but. Mais on tient à faire ça à pied, un peu comme les colporteurs d'antan, aussi parce que c'est un autre rapport au temps, c'est un autre rapport aux gens, au village, à l'imaginaire. Nous, ça nous nourrit. La fatigue physique aussi nous nourrit par rapport à ce spectacle, parce que c'est quand même un spectacle qui demande à être fatigué, puisqu'on va au bout de la fatigue de la nuit, au bout de la transe, au bout de la folie des hommes. Et c'est vrai que sur 15 jours, à la fin, on n'en peut plus. Mais en même temps, il y a une espèce de second souffle qui arrive, et qui est assez incroyable, quoi, physiquement à traverser, quoi, à vivre.
C'est un peu ce qu'avait opéré Jean Giono lui-même, hein, de pouvoir parcourir les territoires à pied pour pouvoir mieux les décrire. Et justement, ces textes, est-ce que vous vous retrouvez justement dans ces périples, est-ce que vous retrouvez cet esprit du texte dans la réalité ?
Ah oui, absolument, absolument. Alors, chez Giono, il y a toujours il y a un point de départ très concret, avec un ancrage sur le territoire, sur ce qui l'entoure. Et puis, très vite, on part quand même dans la fiction et le fantasmatique. Des fois, on part même très loin. faut savoir que Giono, c'est vraiment un menteur. Il disait ça lui-même, hein, donc je me permets. C'est vraiment un romancier, un auteur de fiction, et il avait un grand plaisir à manipuler les faits et à les détourner. Mais pour brouiller un peu les cartes, il prenait quand même des éléments concrets, par exemple des villages concrets, des fois même des personnages concrets ou des faits divers. Et puis ensuite, il en faisait complètement autre chose. Mais c'est vrai que quand on se balade dans la campagne, on ressent ce que Giono pouvait éprouver vraiment. Donc le point de départ est le même. Et nous, on a lu aussi Voyage à pied dans la Haute-Drôme, aux rencontres de Manosque l'année dernière. Et j'ai fait un montage sur ce texte à deux voix. Et c'est des paysages que j'avais déjà arpentés moi aussi à pied. Et effectivement, comment l'écrivait Giono, je crois que c'était juste avant la Seconde Guerre. Et comme c'est maintenant, il y a des fois on se dit mais c'est incroyable, ça n'a pas changé, quoi. La gorge des 30 pas, ça n'a pas changé. Il y a plein d'endroits, Val-Drôme, ça n'a pas changé, quoi. Aussi parce que c'est des endroits très isolés, hein, et donc un peu un peu intemporel, comme je disais tout à l'heure.
Je me tourne vers Claude par rapport à cette première soirée des 24e rencontres. Il y aura à 20h ce film débat Soulèvement. Est-ce que pour vous, il y a une démarche? Parce que je vois les deux événements se chevauchent. Hein. Mm-hmm. Le film est à 20h, le spectacle est à 20h30. D'ailleurs, il se déroulera à la salle polyvalente.
À la salle polyvalente, absolument. Après, sur la relation avec le film Soulèvement, on pourrait y voir quelque chose dans l'imaginaire, ce soulèvement. D'ailleurs, les zadistes et les gens qui se battent contre les méga-bassines ou contre les autoroutes ont une belle expression qui dit « c'est la nature qui se défend ». Et cette expression, ce mantra, rejoint complètement l'idée qu'a Giono de la nature qui, à un moment, d'ailleurs, dans le prélude de Pan, cette nature est prégnante. Elle est même prête à débouler sur le village en question.
Oui, oui.
On la sent.
Elle attaque.
Elle attaque. Elle est vraiment à deux doigts, les nuages, tout ça. On a l'impression que ça va très mal se passer dans cet ouvrage. Et en même temps, Giono, pour nous, et ça rejoint bien l'expression, même si en philosophie ou en politique, on n'a jamais mis Giono dans les théoriciens de l'écologie. Mais en réalité, la relation qu'il développe à la nature, et puis tout l'aspect de sobriété qu'il toute sa vie, de pacifisme aussi pour certains d'entre nous, mais aussi de vivre humblement, de son enracinement territorial sur Manosque, et puis cette critique de la société, on n'en a pas parlé, mais il a une critique très acerbe. Quand il parle de la paysannerie, il a une critique très acerbe du capitalisme et de l'industrialisation de l'agriculture, comme si on allait perdre l'essentiel, l'âme des campagnes. Donc je pense que ça s'inscrit tout à fait dans cette veine que nous, on développe aux rencontres de Di et de la Biovallée, qui est de nouer des moments forts avec la nature, avec la sobriété, avec les choses simples, et de revenir à ces choses primordiales dont parle Jean Giono. On pourrait voir aussi que cette critique radicale du capitalisme qu'il met à plusieurs endroits, dans son livre, je pense à Edmond et je pense à d'autres ouvrages, ça n'a pas été mis vraiment en avant, parce qu'il est... Écrire des livres dans les années 30, où c'était pas facile. D'abord, l'écologie n'avait pas une visibilité comme aujourd'hui, ça c'est certain. Mais en plus, il y avait le contexte de la guerre, c'était très difficile de parler de sobriété, c'était presque inconvenable. Et puis, il y a eu un tas de polémiques autour de son pacifisme, donc ça a été très compliqué d'en faire un des théoriciens de l'écologie. Maintenant, il y a des nouveaux auteurs qui reprennent et qui relisent Giono d'une autre manière, avec cette vision au niveau de la ruralité, de la paysannerie, des campagnes, et qui commencent à faire émerger un nouveau Giono, et ça, on en parlera peut-être.
Je reviens un peu sur le propos que vous teniez en début d'émission, Claude, par rapport à ces années sombres, hein, qu'était la guerre et l'occupation notamment, et où il faut parfois trouver son chemin, et ce n'est pas toujours évident.
C'est complexe. Initialement, j'ai pas une formation pacifiste. Je dois le dire, je suis né dans le Vercors. J'ai été nourri toute ma vie par mes parents, mes grands-parents, mes oncles et mon père dans la résistance, la notion de la résistance. Et pas une résistance pacifique, parce que ça s'est mal passé, puisqu'il y a eu énormément de morts. J'ai une tante qui est morte à Saint-Julien-Vercors. J'ai la maison de mes grands-parents qui a été brûlée. Et 7 résistants qui ont été assassinés. Donc, je n'ai pas été nourri du pacifisme, honnêtement. Et puis, dans la lutte du Larzac, j'ai rencontré Lanza del Vasto, un des disciples de Gandhi, qui nous avait expliqué, je vais la faire court, mais à un moment où les paysans du Larzac voulaient prendre des fusils pour virer l'armée, que si on utilisait la matière forte contre l'armée, on avait quasiment perdu d'office, et qui nous a demandé de faire une grève de la faim. Alors, c'était un peu nouveau pour des paysans de faire une grève de la faim, mais ça a marché. Et à un moment, par cette action, on a réussi à convaincre, je le dis franchement, la FNSEA et le CDJA de l'Aveyron, et on a réussi à convaincre l'évêque de la lutte du Larzac. Donc, finalement, on est arrivé à renverser la population en faveur de la lutte pour les paysans. Donc il y a un moment, je crois que je suis devenu vraiment pacifiste, et c'est à ce moment-là que, retrouvant Giono, J'ai été imprégné parce que Giono, il sort de la guerre de 14-18 dans un état catastrophique psychologiquement. Il a perdu des amis sur le front, en particulier au Chemin des Dames et à Verdun et donc à Douaumont. Et donc, il est terriblement contre la guerre et il a un pacifisme tellement prégnant qu'il va entretenir d'ailleurs des lettres avec Romain Rolland ou avec André Gide qui ont écrit sur la guerre de 14 et qui étaient aussi des pacifistes. Et donc, il va être arrêté par le gouvernement de droite, d'extrême droite, Pétain-Laval, en 1939, parce qu'il s'est pas, il n'a pas suivi le mouvement de l'extrême droite française. Et il va être incarcéré pendant 3 mois, parce qu'on lui a reproché, ce qui est incroyable, qu'on lui a reproché d'avoir participé à des réunions organisées par le Parti communiste, du côté de Briançon, à Modane, si j'ai bonne mémoire. Et donc, il se retrouve dans une configuration avec ce pacifisme collé aux tripes, où il va être incarcéré parce qu'il fréquente des communistes et surtout ce qu'on appelait le syndicat des écrivains, qui était plutôt de tendance communiste. Et puis, il va maintenir cette posture franche et claire du pacifisme pendant les 3-4 années de la guerre. Et bien évidemment, alors on ne saura qu'après, mais il va avoir caché énormément de juifs, de résistants, la femme de Max Ernst, le grand écrivain, le grand peintre et écrivain allemand. Enfin, il aura fait le job sans s'en vanter. Et en 1944, il va être arrêté par la résistance et il va être encore incarcéré pendant 3 mois parce qu'il y avait des textes qui avaient, alors on ne sait pas trop si c'est avec son accord ou sans son accord, qui avaient été publiés dans des revues collaborationnistes comme Signal ou d'autres. Et donc, il va être réincarcéré. C'est toujours ce pacifisme, mais il n'a jamais changé de pied. C'est-à-dire qu'il est resté pacifiste jusqu'au bout et c'est une posture, quand je disais initialement à l'introduction, c'est une posture difficile. Parce que, je vous l'ai dit, hein, je te l'ai dit, moi, du Vercors, quand la Waffen-SS, elle toque à la porte à 10h du soir, parce qu'il y a de la lumière sous la porte, est-ce qu'on est pacifiste ou on n'est pas pacifiste? Parce que combien de gens sont partis dans des trains et combien ne sont jamais revenus? Donc, c'est une vraie question. Et moi, honnêtement, dans mon tréfonds, je n'ai pas de réponse à 100%. Je pense qu'on peut évoluer. On peut être systématiquement pacifiste parce que c'est l'éthique. C'est la morale qu'on se donne. Et puis, quand les SS sont là, eh ben, on doit peut-être prendre des armes.
Baptiste, justement, ce pacifisme, est-ce qu'il transparaît juste dans ce texte de Prélude de Pan?
Pas tellement, hein, puisque même si là, c'est pas humain-humain, mais c'est humain-nature, on va dire... c'est vraiment vu sous la forme de la guerre, hein. C'est le conflit. C'est le conflit entre le vivant qui se révolte et puis voilà. C'est vrai que Giono... Alors, je vais rester sur Prélude de Pan parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Giono et ses postures. Et c'est aussi une personnalité qui a pu être plus trouble que ce qu'on croit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très envie de glorifier son idée. Effectivement, moi, je rejoins beaucoup cette idée de la sobriété heureuse, son pacifisme jusqu'au boutiste, qui est vraiment à toute épreuve, mais qui frôle parfois aussi, des fois, à l'angélisme. Et il y a chez Giono quand même un côté aussi grand enfant, un peu, idéologue, un peu naïf parfois, mais il s'y tient. Et quelque part, son métier à lui, c'est d'écrire aussi. C'est pas d'être un militant, c'est pas d'être ni un philosophe, ni un essayiste. Même s'il l'a fait, il fait des essais, ceci dit. Mais effectivement, une partie de son œuvre aujourd'hui peut être vraiment lue, elle semble assez novatrice et assez dans l'air de notre temps. Voilà. Effectivement, bon, alors dans ce texte, je vais revenir à Prélude de Pan, dans ce texte, donc il n'y a pas d'histoire sur le pacifisme, mais vraiment par rapport à la nature, il y a cette idée de conflit que les hommes ont initié, puisque on mange beaucoup de viande, il y a vraiment quelque chose de l'ordre un peu du massacre, où il y a tout un tas de viandes qui sont présentées sur la table, on torture cette pauvre tourterelle, dans la forêt là-haut, on abat des arbres vraiment à tour de bras. On fait des friches rases, voilà, sans Et puis voilà, puis il y a la vengeance de la nature ensuite.
Cette écriture de la sensation, est-ce que ça vous a donné des indications pour donner l'émotion de ce spectacle, pour comment exprimer un peu ces sentiments qui sont écrits par Jean Giono sur une scène?
Oui, ça donne évidemment des indications. Ça donne un phrasé, ça donne... Il y a un choix de mots qui est fait par l'auteur, qui est vraiment très, très précis. Et donc, on n'a pas du tout envie de le dénaturer quand on dit ces phrases-là, ces poèmes-là. On a envie que tout parvienne. Alors, des fois, le problème, c'est que ça vient aussi en conflit avec la rythmique du récit, où ça a besoin d'avancer. Et donc, il y a des longues phrases. Et des fois, on en a toutes les subtilités que la deuxième fois qu'on l'entend, la deuxième fois qu'on le dit. Et donc c'est pour ça que c'est toujours un ravissement de voir des spectateurs qui reviennent et qui réécoutent autrement. Peut-être une fois, ils ont d'abord l'histoire et puis la seconde fois, ils ont un peu le plaisir des mots. Et effectivement, cette chose au niveau de la sensation qui est très précise. Moi, ça m'a donné des indications pour jouer, c'est sûr, mais ça en a donné, je pense aussi beaucoup à Samy pour composer la musique. Puisque lui, effectivement, la musique, c'est très sensoriel, c'est même sensuel. Et il a essayé de composer quelque chose comme ça, qui donnait des indications de sensations, de frissons, de peur, de ressenti, de froid, de chaud, d'humidité, de sec. J'ai l'impression qu'on voyage un peu avec sa musique dans toutes ces sensations-là. Et donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir le faire à deux. D'être complémentaire dans cette approche sensitive, moi avec les mots de Giono et lui avec sa poésie sonore d'une autre manière.
Et il y a cette référence aussi à Pan hein, sur ce titre qui était une divinité donc de la nature dans la mythologie grecque et où il est représenté avec cet instrument pour garder ses brebis. Est-ce que ça aussi c'est une musique qui est inspirée par cette légende?
Oui, alors la figure de Pan, effectivement, c'est un satyre, donc c'est l'homme bête, c'est-à-dire que c'est exactement la réunion de l'homme et de la bête. Voilà. Après, c'est devenu un peu le berger, mais aussi c'est la figure dionysiaque, c'est-à-dire la figure qui va libérer la folie par la danse et un peu libérer les mœurs. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que Pan, c'était aussi à l'origine du mot panique, ce qui est assez troublant, puisque la panique, peut-être pas le sens où on l'entend aujourd'hui, mais la panique dans le sens où on vient un peu dérégler l'ordre et les choses cousues de fil blanc. Et ce personnage-là, il vient libérer tout ça. Et c'est exactement ce qui se passe dans la nouvelle, quoi.
Alors, je ne sais pas où on en est pour peut-être un extrait.
Eh bien, je ne le trouve pas, mon bouquin. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, à force de le connaître par cœur, Claude, je ne le cherche même plus.
Claude,
je ne l'ai pas retrouvé.
Claude a le livre entre ses mains. Peut-être que lui-même pourrait procéder à cette introduction.
Je vais m'y tenter, mais alors, plaisir. Ça ferait plaisir de l'entendre par une autre bouche aussi.
Je ne suis pas un lecteur qui lit en public hein, du tout. Je ne l'ai jamais fait, alors c'est un peu gonflé. Ceci arriva le 4 de septembre, l'un de ces gros orages, cet an où il y eut du malheur pour tous sur la terre. Si vous vous souvenez, ça avait commencé par une sorte d'éboulement du côté de Toussière, avec plus de 50 sapins culbutés cul dessus tête. La ravine charriait de longs cadavres d'arbres, ça faisait un bruit. C'était pitié de voir éclater ces troncs de bon bois contre les roches. Et tout ça s'en allait sur l'eau, encharpie comme de la viande de malade. Puis il y eut cet évasement de la source, de fond froid. Vous vous souvenez? Cette haute prairie, soudain toute molle, et puis cette bouche qui s'ouvrit dans les herbes. Et on entendait, au fond, balloter l'eau noire, puis le vomissement.
Qui lui prit
à la montagne. Le vallon qui braillait sous les lourds paquets d'eau froide. Alors, je ne vais pas être trop long. Je conseille à tout le monde de le lire. J'ai pas été bon pour toi, mon ami.
Si, c'était très chouette d'entendre.
Mais quelqu'un d'autre, oui, ça doit être rigolo. Ça met l'ambiance déjà. On voit les dégâts qu'a causé l'orage au niveau de la forêt, l'éboulement.
Exactement. Et donc
ça met dans l'ambiance du livre, d'abord dans l'ambiance du prélude de Pan et de ce qui va se passer dans ce village, mais aussi souvent dans les ambiances que va essayer de constituer Giono, que ce soit dans la montagne, que ce soit toujours la nature qui est d'une puissance qui bouleverse les hommes. Et qui peut les anéantir.
Oui. Et puis après, il y a cette histoire de rond de ciel bleu.
Oui, qui est comme un œil, là. Ouais.
Voilà, puisque c'est comme un œil, ouais. Effectivement, ouais. On a l'impression que c'est le beau temps. Ouais. Et en fait, c'est tout le contraire. Il disait, maintenant qu'on sait, que c'était le signe, la marque, que nous étions marqués pour la chose, que par ce rond de bleu, on avait voulu désigner notre village et le désigner au mal.
Ouais. C'est l'œil de Caïn.
C'est ça.
Oui, ouais, absolument.
Voilà, donc rendez-vous est pris à 20h30 à la salle polyvalente pour ce spectacle. Je pense qu'il y aura suffisamment de place pour
Oui, je pense que c'est le premier jour. Donc des fois, le premier jour, on démarre en douceur. Il n'y a pas autant de monde que ça. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème.
Au-delà de cette musicalité suggérée par Pan, par exemple, et du spectacle de Samy, est-ce qu'il y a un air musical qu'on pourrait utiliser pour finir cette émission, Baptiste?
Oui, il y en a beaucoup. Moi, je pense évidemment aux musiques de Samy, puisqu'il est compositeur et chanteur par ailleurs, et il a notamment un duo qui est très très beau, qui s'appelle Facteur Chevaux. Et c'est beaucoup de chansons sur la montagne, sur des paysages, sur la geste simple des hommes dans leur environnement naturel, qui sont humbles et qui sont très sensitives, comme on l'a dit plus tôt. N'importe laquelle conviendrait. Les Dames de pluie, par exemple, c'est très beau.
Et puis, sur Internet, on peut retrouver aussi votre travail sur le site de Scène Nationale 7. Je mettrai le lien sur la page de l'émission. En tout cas, je vous remercie, Baptiste, d'avoir donné un peu de votre temps et Claude Verret aussi pour nous présenter donc ce prélude de Pan pour mardi 27 janvier. Et voilà, l'émission se termine et je vous souhaite une bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée. C'était un vrai plaisir de pouvoir parler avec vous. J'espère que ça a donné envie aux gens et on a envie de rencontrer des gens à cette occasion-là.
Les fleurs ne se coupent pas car leur cœur sinon flétrit. Elles flanchent comme des soldats sous les franges d'une longue pluie. Et même si on l'oublie, leurs ombres dansent sur le chemin des dames de pluie. Les fuyards ont fusil. Et même si on t'oublie, dont l'ombre danse sur le chemin des dames de pluie. Et même si on t'oublie, ton ombre danse sur le chemin des dames de pluie. De la craie des eaux, rongée par les radeaux, remplissent les boyaux. De la craie des eaux, remplissent les boyaux, où crève le troupeau. D'où remontent parfois les cris. Tu supplies pour ta grâce, mais ta mémoire on mutile. Car toi qui ne comptes pas, tu restes en première ligne. Certains soirs, ta silhouette sur le plateau se dessine. Et même si on t'oublie, ton ombre danse sur le chemin des dames de pluie. Même si on t'oublie, ton ombre danse sur le chemin. Ton ombre danse sur le chemin des dames.